Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue aux grandes voix. Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Bonjour.
Bonjour.
Ce week-end, les cloches de Pâques, mais ce sont les cloches de la rue de Montpensier qu'on attend le 14 avril prochain, vendredi. Le Conseil constitutionnel se prononcera sur la réforme des retraites. En attendant, le président Macron dégringole encore plus dans les sondages. Tandis que la France gronde, la colère sociale monte. Quelle sortie de crise politique pour la France ? Premier sujet de discussion. À peine Emmanuel Macron a-t-il eu tourné le dos que Xi Jinping envoyait ses forces militaires autour de Taïwan, encerclement total de l'île ce matin, avec le prétexte, comme toujours, de l'exercice militaire, opération dissuasion après l'entrevue du speaker américain et de la présidente taïwanaise. Quel jeu joue la Chine et que va-t-elle faire avec la Russie ? Deuxième sujet pour nous. Enfin, l'inculpation de Trump aux États-Unis, au-delà du cas particulier et néanmoins inédit, cette affaire lance aussi la campagne pour la présidentielle 2024. On en parle en fin d'émission. Vous avez le programme, les grandes voix, c'est parti. Quelle solution pour sortir de la crise politique ? D'un côté, toujours des manifestations, toujours des violences. C'est un symbole, mais de l'autre, un gouvernement qui consulte avec des syndicats qui partent de Matignon en claquant la porte. Le gouvernement pense-t-il que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes dans la durée, Charles Villeneuve ?
Écoutez, je pense que rien ne bougera avant l'avis du Conseil constitutionnel vendredi prochain, 14 avril. C'est-à-dire encore 6 jours à attendre.
Oui.
Et en attendant, ce qu'on peut observer, c'est que le président de la République a atteint son plus bas niveau depuis la fin du grand débat national qui avait suivi le mouvement des Gilets jaunes au printemps 2019. Selon Odoxa pour Public Sénat, l'enquête réalisée fin mars après le recours au 49-3 sur le projet de loi sur les retraites et après son entretien à la télévision, les Français sont désormais 70% à dire qu'Emmanuel Macron est un mauvais président, soit 11 points de plus depuis que la réforme a été lancée. Et sa popularité recule partout, même chez ses partisans, partout sauf chez les sympathisants LR, pour atteindre chez les Républicains 51% de jugements positifs. Et toujours pour Odoxa, 71% des Français espèrent un référendum pour annuler le report de l'âge légal à la retraite et 61% souhaitent la dissolution de l'Assemblée nationale. Je ne vois pas donc venir de piste de sortie, à moins qu'Emmanuel Macron ne s'inspire des exemples de François Mitterrand, qui avait renoncé un 14 juillet à ce que le gouvernement supprime l'enseignement privé, et Jacques Chirac, qui n'avait pas promulgué la loi sur le CPE. Pourtant voté.
Oui, mais vous savez, la popularité d'Emmanuel Macron, je veux dire que lorsque Nicolas Sarkozy a fait la réforme des retraites, où il y avait eu 14 manifestations, des violences, les raffineries qui avaient été bloquées pendant 17 jours. Quand la loi a été votée, Madame Aubry demandait que la loi ne soit pas promulguée. Et Nicolas Sarkozy était au plus bas. Il était 73% d'opinion négative. Mmh. Mais la différence avec Emmanuel Macron, c'est qu'il y avait, il avait une majorité à l'Assemblée nationale. Voilà. Pour Emmanuel Macron, tout réside là. Il n'a pas de majorité. Et dans son interview du 23, il a donné à Madame Borne une mission impossible, c'est de bâtir un programme de gouvernement, d'élargir cette majorité autant qu'elle le pourra, disait-il, du côté de l'écologie, enfin bon, enfin vraiment tout ça. Et il disait bien que Madame Borne a décidé, a souhaité le 49-3, geste solennel, elle a pris ses responsabilités. Donc il lui dit un peu... ce 49-3 qui est maintenant tellement vomi, haï par la gauche et d'autres. Donc, je pense qu'il est dans une double impasse, c'est-à-dire qu'à la fois sa première ministre ne peut pas réussir, qu'il n'a pas de majorité, et quel que soit le remplaçant ou la remplaçante, on se retrouvera dans le même cas de
figure. D'ailleurs, il y a de l'eau dans le gaz maintenant entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne.
L'eau dans le gaz... je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup de moments où il y a eu de l'eau dans le gaz. Et d'ailleurs, on imagine à quel point la confrontation permanente de la Première ministre et du Président doit être difficile. Parce qu'on la voit assez stricte. Il paraît qu'elle envoie ses quatre vérités à qui elle veut, quand elle veut.
Oui, d'ailleurs, c'est pas si, d'ailleurs ses collaborateurs n'en peuvent plus de ses mauvaises humeurs. Oui.
Ils n'en peuvent plus non plus du Président.
Alors, voilà.
Alors, bon, donc, il y a eu quoi, au fond ? Il y a eu Mme Borne qui a eu ses phrases. Il ne faut pas que les syndicats sortent humiliés d'une telle séquence. Mm. Ben, au bout du compte, elle a raison. Elle a raison. Ça ne sert à rien que les syndicats sortent humiliés, d'autant que ils parlent tous de crise démocratique maintenant. Enfin,
c'est
le président
Berger
de la CFDT. La CFDT parle de crise démocratique, mais les autres.
Ce qui a provoqué la colère d'Emmanuel Macron et la recolère de M. Berger derrière.
Non, mais c'est important, cette notion de crise démocratique, parce qu'il n'y a pas de crise démocratique. Au fond, la loi acheminée par le Parlement, et elle a été adoptée par le 49.3, qui. Quoi qu'on dise et quoi que dise parfois Madame Borne, qui figure dans la Constitution. Donc il n'y a pas de crise démocratique. Mais il y a une crise presque plus grave, je trouve. Il y a une crise politique, bien sûr. Il y a une crise, on voit bien une crise sociologique. On voit bien une crise de deux générations. Hein, et on voit bien, enfin, une crise présidentielle, parce que c'est quand même autour de lui que tout se... focalise.
Gérard Cariot.
Alors écoutez, en attendant les décisions du Conseil constitutionnel, que nul ne connaît pour l'instant, et qui peuvent être une sortie de crise, ça peut donner lieu à une sortie de crise, ou au contraire, ça peut donner lieu à rien du tout et éventuellement à la poursuite des mouvements, ça va être dans les textes du Conseil constitutionnel. Mais en attendant, moi ça m'a beaucoup frappé quand même, cette... Alors on peut... Il y a une façon, on peut dire que c'était une sorte de mini-crise qui s'est terminée très vite entre les deux responsables de l'exécutif, entre le président de la République et la première ministre. Michel vient d'en parler. Moi, je crois que c'est très sérieux. C'est très sérieux. Non pas qu'il y ait des divergences. Ce qui est évident pour moi, c'est que Matignon, vous savez, on ne se rend pas compte souvent, on a l'impression que tout part de l'Élysée. En fait, nous, on a connu, par nos fonctions depuis longtemps, on a connu beaucoup de premiers ministres. On sait que Matignon, c'est la salle de contrôle de tout. Tout remonte du pays vers Matignon. Beaucoup plus qu'à l'Élysée, où il y a certes un cabinet, des collaborateurs, mais c'est plutôt... Donc, quand on est à Matignon, comme elle est aujourd'hui, on voit que le pays ne va pas bien, ne va pas bien du tout. Et c'est ce que Mme Borne a traduit lorsqu'elle a reçu quelques journalistes, dont celui du Monde, qui l'a rapporté, lorsqu'elle a dit les phrases que vous avez rapportées, notamment celles qu'il ne fallait pas que les syndicats sortent humiliés de cette crise. Elle sent le malaise profond du pays et elle s'en est faite, effectivement. Et en même temps, pourquoi l'a-t-elle dit ? Elle l'a dit parce qu'elle sait que peut-être elle servira de fusible et qu'elle sera éventuellement virée dans peu de temps. Et donc, après tout, elle veut garder son honneur. Et donc, elle dit les choses telles qu'elle les voit. Et évidemment, le président de la République, qui était à ce moment-là en Chine, a sauté sur l'occasion pour dire « Mais en fait, pas du tout, le cap, c'est moi, et je l'ai fixé dans mon entretien à la télévision. » Or, tout le monde sait, toute la France sait, que justement, dans cet entretien à la télévision, il a été mauvais et qu'il n'a pas donné le cap. Donc, en faisant ça, il a fait un geste d'autorité présidentielle. Elle, évidemment, en bonne Premier ministre, elle a dit « Ok, c'est fini. L'incident est clos », mais l'incident n'est pas clos. Ça veut dire qu'il y a une incertitude au sommet de l'État, une grande incertitude sur ce qui va sortir des décisions du Conseil.
Une pause et on revient avec les grandes voix dans un instant, à tout de suite.
Europe 1, Pierre de Villeneuve.
Suite des grandes voix sur Europe 1 avec Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Michel Cotta et Catherine Ney. Catherine qui voulait revenir sur des phrases très importantes justement au sommet de l'exécutif.
Oui, d'abord, Madame Borne qui parle peu a réuni à déjeuner quelques consoeurs et confrères. Ça veut dire qu'elle voulait pas que ça soit du on, qu'elle voulait que ça soit du on et non pas du off.
Oui.
Et dans les phrases, une des phrases qu'elle a dites, avant d'aller chercher des alliés pour voter des textes, c'est important que l'on dise où l'on veut aller. Voilà. Et ça s'adressait à qui en fait ? Au président Macron. Parce que lui, lors du premier quinquennat, il avait tenté la réforme à points et avait promis qu'il s'était engagé à ne pas toucher à l'âge. Il a même dit des choses très péremptoires pour dire « mais ça serait une stupidité ». Et ça, les syndicats ne l'ont pas oublié. Et là qu'après, il arrive à 65 ans, bon, mais alors, de son côté, donc c'est quand même, vous dites, vous avez voulu, vous ne saviez pas, c'est quand même une attaque contre Macron. Mais lui, de son côté, il dit la vérité, c'est qu'il n'y a aucune force sociale et politique d'opposition qui a voulu entrer dans un compromis et porter un autre projet. Eh bien non, c'est-à-dire que les syndicats, en 2010, comme étaient contre le passé de 60 à 62 ans, ils étaient contre, c'est la même chorégraphie. Et cette fois-ci, ils sont contre l'augmentation d'âge. Pour eux, toucher à la retraite à 60 ans, c'est un tabou. Ça n'a pas changé.
Moi, je crois que la sagesse politique devrait, en tout cas, animer le président de la République et se dire qu'il faut reconfigurer un nouveau pacte social et faire ce qu'on fait dans leur sagesse, le président François Mitterrand par rapport à l'enseignement privé et idem pour Jacques Chirac.
Mais oui, mais les deux présidents avaient une majorité.
Je suis absolument pas d'accord. C'est impossible. Vaut mieux partir, je veux dire. Vaut mieux dire, je me soumets mon poste à réélection. Ça, à la rigueur, on peut le faire. Mais dire maintenant...
Il pourra peut-être le faire. D'ailleurs.
Mais dire maintenant, après tant de semaines... Ah ben non, je recule, alors que ça figure sur son programme électoral, qu'on sait très bien que la retraite, ça se fait à petits pas.
Alors, c'est ce qui s'est passé pour Mitterrand, pour l'enseignement privé, pour Jacques Chirac, pour le CPE.
On sait très bien. Non, mais
tant de semaines, oui, tant de semaines, bien sûr, mais eux aussi, ils ont résisté à beaucoup de semaines.
Villepin ne s'est jamais remis de ce retrait, et ni Jacques Chirac, donc maintenant, qui est devenu la référence, on retire un projet... Quand il est promulgué, ça c'est difficile à faire.
Il était promulgué.
Il était promulgué avec Chirac. Il a dit qu'il ne serait pas appliqué.
Oui. Il était promulgué.
La loi a été promulguée et on a inventé de refaire une loi qui a été votée et qui vidait de son sens la loi qui avait été promulguée. Donc, elle a été annulée. Voilà, c'était un tour de passe-passe.
C'est jamais bon en politique, même si la situation est catastrophique et que naturellement, il faut envisager une voie de sortie.
Mais oui, mais le problème, c'est pas de majorité.
Mais ça fait rien.
Gérard, vas-y.
C'est exceptionnel.
Oh non.
Oh là là, dis donc. Il y a les phrases entre Borne et Macron, puis il y a les phrases dans les grandes
voies. En tout cas, ce qui s'est passé, la preuve qu'on passe beaucoup de temps sur ce mini, soi-disant, qui était un mini incident entre l'Élysée et Matignon.
Oui, on s'était dit dans la préparation de l'émission qu'on va en parler 2 minutes.
Et on a raison d'en parler parce que c'est. Vous vous souvenez quand même de la fin du mandat d'Édouard Philippe, avec des divergences sur le financement, effectivement, de la première loi sur les retraites. Quand on a senti déjà les premiers frémissements de cette divergence, on a compris que les carottes d'Édouard Philippe étaient cuites, et elles le furent très vite après.
C'est exactement ce qui est en train de se passer.
Mais c'est en train de se passer dans une situation plus grave qu'à l'époque.
Bien sûr, parce que le pays...
Alors, on peut dire que c'est une crise démocratique ou le nier. On peut dire que c'est une crise existentielle. On peut dire n'importe quoi, sauf qu'on est dans une grande crise avec un C majuscule. Pour sortir d'une grande crise, et c'est pour ça que je m'interroge sur ce que décidera le Conseil constitutionnel, on ne peut pas imaginer de sortir de cette crise sans qu'il y ait, d'une manière ou d'une autre, un recours au peuple, c'est-à-dire un recours à une forme de suffrage. Oui. Alors ça peut être
qui
sous
ne
la
réglera
forme...
rien. Oui,
peut-être, mais c'est dans ce cas-là le suffrage. Si imaginons que ça soit le RIC, imaginons que ça soit le référendum d'initiative citoyenne, ça prendra effectivement 9 mois ou plus.
Presque 2 ans.
Et dans ce cas-là, ça servira, si c'est le cas, ça servira d'une extraordinaire soupape. Le pays peut aller vers un enchaînement de violence extraordinaire.
Un référendum sur la retraite, sur l'âge de la retraite, on sait très bien qu'il est perdu, c'est même pas la peine de le faire.
Parce que ça sera une soupape politique à un pays qui n'en peut même.
Je t'ai entendu souvent dire quand même que tu étais pour l'allongement ou pour une certaine façon de l'allongement des cotisations.
Je ne me prononce pas sur le fond de la retraite, mais sur une retraite dont les Français aujourd'hui, à 3 Français sur 4,
ça a toujours été le cas. C'était le cas sous Sarkozy.
Moi, sur le fond, tu me dis. Et vous n'étiez pour, vous étiez bien sûr. Je pense que il faut travailler plus. Je le pense moi. Et d'ailleurs, je le démontre puisque j'ai 81 ans. Voilà.
Bon. Je ne vais pas seulement
le dire, mais simplement, le pays n'en veut pas. Le pays n'en veut plus.
Mais il n'en a jamais.
Donc il faut en tenir compte. Et le seul recours au peuple, je le dis, il faudra un recours au peuple.
Vous savez que dans PIF. Le président a dit sa frustration quand les choses ne vont pas assez vite. Et alors on lui a posé la question, pourriez-vous quitter votre poste en plein mandat et comment ça se passerait si vous le quittiez? C'est une élève de 4e qui lui pose la question. Il lui dit, si tu le quittes, c'est qu'il peut y avoir une énorme crise et que tu es empêché. À ce moment-là, tu remets ton mandat aux Français et le peuple vote à nouveau. Mais alors, ça peut dire que s'il remet son mandat aux Français, ça veut dire qu'il se représente.
Oui.
Ça veut dire qu'il squeeze le quinquennat ou quoi?
C'est ce que je disais tout à l'heure.
Est-ce qu'il a le droit?
J'avais pas compris.
Est-ce qu'il a le droit?
Est-ce qu'il a le droit constitutionnel? C'est un problème constitutionnel. S'il démissionne en cours de mandat, peut-il se représenter?
Pour 5 ans. Pour 5 ans.
Eh ben oui.
Donc encore, il gagne un an.
Normalement, je crois que oui, mais je ne suis pas constitutionnaliste.
Moi, c'est une question que je pose parce que finalement, je n'ai pas la réponse. Est-ce que vous pensez que le problème des retraites est la seule raison de mécontentement? On voit bien
évidemment
qu'il y a dans le pays une espèce d'abord d'inégalité entre les Français, l'archipel français, ça on en a parlé 20 fois, mais on voit bien qu'il y a effectivement une partie, mais qui en veut pour l'essence, pour l'inflation.
Parce que l'hôpital ça marche pas, voilà. Parce que l'école ça
mais
va
c'est
pas.
La cristallisation d'une crise rampante depuis les gilets jaunes, sur la dégradation, l'enterrement de ce qui faisait la force de la France, c'est-à-dire dans nos services publics exceptionnels. On l'avait vu pour le nucléaire, on l'a vu pour l'école.
Et le coupable désigné, c'est Emmanuel Macron.
Et aujourd'hui, le vecteur de ce mécontentement généralisé, c'est la réforme des retraites.
C'est pas un hasard, c'est que tous les présidents, à un moment donné, si un, les présidents, depuis ces dernières fois, n'ont pas été réélus, et deux, si même quelqu'un comme Valéry Giscard d'Estaing avait une image détestable à la fin. C'est vraiment terrible, parce que vraiment... Tout est concentré sur le président qui ne peut pas s'en sortir autrement que se représenter comme il le peut.
On se retrouve dans un instant avec les grandes voix. Sachez en tout cas que dès 23h, vous retrouvez la libre antenne de Yann Moix chaque week-end sur Europe 1. Antenne libre, il part à la rencontre de vous, les auditeurs d'Europe 1. Il partage vos témoignages, s'entoure d'invités pour parler d'une thématique chère. Vous voulez témoigner? Discutez avec Yann Moix, vous laissez vos coordonnées en appelant le 3921. 50 centimes la minute et Europe 1 vous rappellera. A tout de suite sur Europe 1 avec les grandes voix sur Europe 1. A tout de suite sur Europe 1.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Retour sur Europe 1 avec les grandes voix Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. Et alors cette crise politique, d'après les derniers sondages qu'on a pu lire, elle profite beaucoup à Marine Le Pen, Michel Cotta.
Effectivement, et pas du tout au personnage de Mélenchon. Alors c'est intéressant à voir, et j'entendais l'autre jour un lieutenant de Mélenchon dire mais c'était quand même incroyable, c'est nous qui nous battons sur le niveau de vie, etc. Et c'est Marine Le Pen qui ne dit rien, qui engrange tous les suffrages. Alors, c'est vrai que c'est la grande gagnante. C'est vrai que le silence l'aide. Mmh. On n'a pas entendu faire une contre-proposition de quoi que ce soit sur la retraite. Elle reste... elle a dit qu'elle était moins... Elle voulait moins la retraite à 60 ans. Mais enfin, elle n'a pas précisé son rôle et sa volonté. Et elle est quand même, entre maintenant dans les sondages, entre 29 et 36% au premier tour.
IFOP fiduciel. Alors, pour le Figaro Magazine, 31% des voix si le premier tour de l'élection présidentielle avait lieu demain. Et elle serait élue à 55 contre 45 si elle était...
Sur les sondages, il faut simplement dire un mot. Les sondages montrent que Macron... est candidat, mais je vous rappelle que c'est pas lui qui le sera pour la première fois. Pour la prochaine fois, par conséquent, ça change tout. Alors, on dit, c'est le commentaire de Frédéric Dabi, Marine Le Pen a pris dans son giron la France du travail. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire que la France du travail, parce que la France du travail, après tout, c'est nous tous, mais elle a pris effectivement le fameux électorat ouvrier que devrait avoir Mélenchon.
Catherine.
Non, moi je crois qu'elle a gagné sur C'est vrai que plus elle se tait, plus elle monte, mais elle montre au pays qu'elle a 91 députés et qu'elle les tient. D'un côté de l'hémicycle, il y a des gens qui arrivent, qui sont cravatés, qui disent bonjour, qui sont polis, qui ont pris une douche le matin, et c'est tranquille. Et de l'autre côté, il y a la ZAD avec ces gens débraillés, qui éructent, dont on dit, mais comment peut-on venir comme ça, c'est quand même un manque de respect pour les électeurs, et moi je dirais que c'est une réédition de La vie est un long fleuve tranquille, vous voyez, en politique, et bien là, c'est pas les grenouilles qui...
Les grenouilles,
c'est les groseilles, c'est les duquesnois. Et bien Madame Le Pen est la présidente des Duquesnois. Voilà, des gens qui travaillent, comme dit Michel.
Moi, je crois qu'elle marque des points sur sa posture de responsabilité face à la violence. C'est surtout ça qui lui profite. Les gens, le public, les Français n'approuvent pas le désordre, à l'inverse de Mélenchon, qui apparaît comme un allié du désordre. C'est exactement ce que vient de dire en photographiant l'hémicycle, Catherine.
Et alors, quand les Renaissances disent « Ah là là, Madame Le Pen, si elle arrivait, ça serait terrible. » Mais aujourd'hui, dans la France profonde, les Français, ils ont beaucoup plus peur de Mélenchon, de ses violences, de son appel au chaos, de ça, que
ils préfèrent les deux Quénois que les Groseilles.
Je vous rappelle quand même que dans les sondages, la NUPES est très bien placée. La NUPES est très bien placée et pas Mélenchon.
Oui, le paradoxe, c'est quand même que c'est les grands silencieux qui l'emportent dans ces sondages. Les deux grands silencieux de la politique pendant cette crise, c'est effectivement Marine Le Pen, qui est, pour des raisons sur lesquelles je reviens tout de suite après,
et Édouard Philippe,
qui est quand même apparemment, moment, qui est le mieux placé pour éventuellement incarner...
Alors qu'il était pour la retraite à 67 ans, ce qui est quand même le paradoxe.
Mais sur Marine Le Pen, elle a gagné finalement... Il y a une espèce de paradoxe qui fait qu'elle a gagné sur les deux tableaux. Le premier tableau, c'est qu'on pouvait se dire, ceux qui s'expriment le plus fort et qui sont le plus présents dans la crise, c'est-à-dire ceux qui dirigent les manifestations, qui appellent aux manifestations, elle n'a pas appelé beaucoup aux manifestations pour une raison structurelle, c'est qu'elle n'était pas bienvenue dans les manifestations. Pratiquement tous les syndicats et tous les partis de gauche avaient dit pas question de défiler avec le Front National, avec le Rassemblement National. Du coup, comme elle n'a pas défilé, elle n'est associée en rien aux violences qui se sont quelque part greffées peu à peu jusqu'à cette semaine sur les manifestations. Donc elle incarne parfaitement l'ordre. Et comme elle l'incarne également, l'ordre dans la rue, et comme elle l'incarnait déjà depuis l'élection législative à l'Assemblée nationale face à la NUPES et au braillard de la NUPES, elle gagne sur les deux tableaux. Est-ce que ça veut dire, alors je vais dire simplement, est-ce que ça veut dire pour autant
qu'elle est plus compétente,
qu'il y a une fatalité? Non, elle n'est pas compétente ou pas compétente. Les électeurs jugeront. Mais en tout cas, ça ne veut en dire en aucun cas que les élections vont la porter à l'Élysée. Parce que d'abord, on est dans 4 ans. Et moi, je suis de ceux qui pensent que quoi qu'il arrive,
on dit aujourd'hui
que le mur de verre n'existe plus et que le barrage le Front républicain, tout ce que vous voulez, n'existe plus non plus. Je pense que face à un candidat, Édouard Philippe, Darmanin ou un autre, Madame Le Pen n'est pas automatiquement celle qui ira à l'Élysée.
À ta théorie que seul le silence paie, moi je dirais que pour un, il est quand même très nocif. C'est pour Wauquiez, qui est soi-disant le futur candidat,
et
à force de rien dire, n'existe
pas.
Il est à 4% dans les sondages.
Non, moi je crois que la droite... qui n'a pourtant pas d'idée, pas de véritable leader encore, même si certains apparaissent, est assis de plus en plus sur un tas d'or électoral. Et les prochaines élections le démontreront.
Bon, ça, on verra.
C'est une prophétie autoréalisatrice, je ne sais pas.
C'est le mot Front populaire contre, réaction populaire contre Marine Le Pen, Front républicain contre Marine Le Pen, qui m'intéresse. Parce que on s'est aperçu quand même cette semaine, je vais vous dire, qu'il y avait un Front républicain.
On peut pas se parler. Alors comme on peut pas se parler, je marque une pause et ensuite Michel Cotta pourra reprendre ses propos. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve. Avec Michel Cotta sur Europe 1 qui voulait terminer son propos, Michel.
Oui, je pensais à la notion de front républicain. Pendant très longtemps, on s'est dit, et au fond, c'est ce que vient de dire un peu Gérard, qu'il y aurait un front républicain contre Marine Le Pen, ça ne marche pas. En réalité, le seul front républicain qu'on a vu se former cette semaine, c'est en Ariège, dans une législative partielle,
exactement,
où une candidate de la France insoumise a été battue par une candidate socialiste dissidente qui, naturellement, a profité des voix des autres, c'est-à-dire des macronistes, des républicains et de certains Front National. Et de ça, on peut se dire qu'il peut y avoir maintenant un front républicain, ou anti-républicain, comme on veut, contre Mélenchon. Et ça, c'est très important. Oui. Et à mon avis, ça explique la réflexion de Fabien Roussel, qui est en congrès en ce moment, le secrétaire du Parti communiste, et qui crée et qui essaye de créer une autre option vers la gauche qui élimine Mélenchon en réalité.
Oui, en tout cas, la fin du clivage qu'on annonçait, le clivage revient à toute
verve. Et comme il est très sympathique, ce monsieur Fabien Roussel, je ne sais pas si son appel à la gauche sera
Je voulais qu'on parle de la Chine, puisque à peine le président Macron reparti, la Chine a repris ses habitudes et l'habitude de la contrainte par la force. Ce samedi matin, la télévision chinoise indiquait que des exercices militaires avaient été lancés dans le détroit de Taïwan, exercice consistant à se concentrer sur la capacité à prendre le contrôle de la mer, de l'espace aérien et de l'information afin de créer une dissuasion et un encerclement total de Taïwan. Je cite la télévision chinoise. Est-ce une réponse directe à l'entrevue entre la présidente taïwanaise et Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants américains, Gérard Carrérou ?
Vous savez, quand il y a une guerre, et on a une guerre depuis un an en Ukraine, une guerre peut en préparer une autre. Il ne faut pas sous-estimer du tout ce qui se passe effectivement autour de Taïwan. Parce qu'effectivement, beaucoup d'observateurs nous disent que de toute façon, la Chine ne veut pas la guerre, que la Chine a une autre stratégie, etc. Moi, j'ai quand même tendance à regarder un peu ce que disent les militaires américains. Et ce qu'a déclaré le 1er février, il y a deux mois, un des grands généraux du Pentagone, qui s'appelle Mike Minihan, qui a occupé de très grandes fonctions, y compris celles dans la zone Pacifique. Il dit ceci, je le cite pour ne pas dire autre chose. « J'espère me tromper, mais mon instinct me dit que nous allons nous battre en 2025. C'est une circulaire assez subordonnée, officielle. » Et il dit, dans une circulaire interne datée du 1er février, il a ordonné à ses forces de se tenir prêtes pour un conflit entre les États-Unis et la Chine dans les deux prochaines années. Xi a assuré sa réélection et mis en place son conseil de guerre. Les élections présidentielles à Taïwan auront lieu en 2024, l'année prochaine, et lui fourniront un prétexte. Les élections américaines auront lieu en 2024 également, et elles vont distraire l'attention des Américains. La raison et l'occasion seront toutes alignées pour 2025. Alors, je ne dis pas qu'il faut prendre à la lettre ce que dit ce général américain. Ce que je pense, c'est que les Américains ont fait un certain nombre de provocations dans la dernière période, et notamment le voyage, on l'a peu évoqué parce que ce n'est pas notre politique à nous, mais le voyage de Nancy Pelosi, qui était la chef effectivement des démocrates à la Chambre des représentants américains, et une figure très importante, la présidente. Oui. Nancy Pelosi, c'est une vraie provocation.
Elle est partie à Taïwan. Hein.
Elle est partie à Taïwan.
Bon. L'été dernier.
Il y a eu depuis, ça n'a cessé, la tension ne cesse de monter entre effectivement Taïwan et la Chine. Et attention à toutes ces déclarations un peu prématurées sur la Chine a une autre stratégie, la Chine ne veut pas la guerre, etc. Méfions-nous du dormant. On disait qu'elle était, pendant longtemps, on a cru que la Chine dormait, et puis elle s'est réveillée, comme a dit Alain Perfit. Aujourd'hui, la Chine est réveillée, y compris militairement. Donc, il ne faut pas sous-estimer les manœuvres qui sont en cours depuis ce matin.
Ce qui recoupe tout ce que tu viens de dire à propos du Chief of Staff de l'Indo-Pacifique, le général américain, c'est que l'une des priorités de la Chine et du nouveau mandat du numéro 1, Xi Jinping, est de changer le statu quo de Taïwan. Et sa gesticulation maritime à tir de balle réelle que vous venez de décrire, Pierre, fait partie d'une stratégie très précise qui va s'accentuer par rapport aux élections présidentielles et législatives de 2024. C'est pour influencer le résultat de ces élections que cette gesticulation maritime et militaire va s'accentuer. D'autant que les Américains, de temps en temps, on ne le signale pas, justement, parce qu'on ne suit pas avec attention ce qui se passe comme gesticulation dans le Pacifique, c'est que les Américains envoient deux porte-avions, l'un de 94 000 tonnes et l'autre de 107 000 tonnes, le Roosevelt et le Ford, autour de Taïwan. Et donc, de toute façon, c'est une gesticulation militaire sans cesse, qui ne cesse absolument pas. Alors, est-ce qu'il y aura une escalade vers la guerre ? C'est possible, on ne peut pas l'exclure.
On retrouve à ce niveau le problème entre la Russie et la Chine. Alors, la Chine, effectivement, qui s'attend, qui voit bien ce que Charles appelle les gesticulations militaires, alors la Chine ne veut pas d'une Russie affaiblie, parce qu'elle a besoin de la Russie si elle est attaquée, pour affronter les Américains. Par conséquent, tout s'explique par là. On n'obtiendra pas de si qui disent quoi que ce soit contre la Russie. Il peut à la rigueur rappeler à la charte de l'ONU, mais toutes les mesures, pour, enfin toutes les tentatives pour lui faire dire « Ah ben non, finalement, je n'aiderai pas la Russie », non, il a besoin d'une Russie forte pour résister,
aussi.
Et pour résister à l'Amérique. Par conséquent, il n'y a peut-être pas de livraison d'armes de la Chine à la Russie, encore que, comme vous savez, le président Macron s'en est préoccupé. Enfin, ça, je suppose qu'on le saurait. En tout cas, la Chine est partie dans un multipolarité, d'une multipolaire et d'une multipolarité. Et c'est pour ça, d'ailleurs, aussi qu'ils ont dit que l'Europe était un pôle et devait rester un pôle indépendant des Américains.
Catherine Ney.
Oui, moi, je crois que quand on parle de l'Occident face à la Chine ou la Russie, moi, je crois que ce qui fait la grande différence, et c'est pour ça d'ailleurs que d'un côté, il méprise, c'est que vous voyez que Xi Jinping, c'est la durée qu'ils ont pour eux. Il est déjà au pouvoir depuis 13 ans. Il vient d'être réélu pour 5 ans et il conspire à y rester à vie. Voilà. Et c'est sûr que lui, quand il a dit à son ami, quand il a parlé de son amitié sans limite pour Poutine, il lui a dit « des changements comme nous n'en avons jamais vu depuis 100 ans et c'est nous qui les pilotons ». C'est-à-dire que lui, il se sent le maître du monde. Et dans le fond, il a tout à fait le temps pour lui. Il a déjà connu... trois présidents de la République. Hein, bon, Poutine, il en a connu quatre. Et ils seront toujours là, quels que soient les nouveaux qui vont arriver. Et qui ne sont là pour eux que des fétus de paille qui passent, auxquels on fait des risettes. Et c'est sans importance. Et cette durée, c'est une chose qui, dans leur esprit, change tout par rapport voilà, aux démocraties qui changent sans arrêt. Et c'est ça leur force.
Une pause et on revient avec les grandes voix dans un instant avec Gérard Carrérou et Charles Villeneuve et Michel Cotta et Catherine. Et à tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Dernière partie des grandes voix avec Michel Cotta, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Gérard Carrérou. Charles, vous vouliez revenir sur la question de la Chine et de Taïwan. Et surtout de Chine.
Non, mais surtout, enfin, on s'est attardé sur Taïwan, on s'est attardé
sur
la guerre.
Parce que c'est l'actualité du moment.
Oui,
voilà.
En Ukraine, etc. Mais pour Pékin, la guerre en Ukraine participe de la fin de l'hégémonie de l'Occident sur les relations internationales et de sa domination. C'est la raison pour laquelle elle appuie de toute façon les Russes. Mais je pense qu'elle a... Car la guerre va durer. Vous savez que le porte-parole du Kremlin, au cours d'un verre, au moment des fêtes de fin d'année, a annoncé à la plupart des participants de ce verre que la guerre durerait au minimum 4 ans et sinon 5 ans en Ukraine. Bon, la presse anglaise s'en est faite l'écho. Mais la Chine, ce qui est beaucoup plus intéressant au niveau justement de sa politique étrangère, avance pour étendre son influence par la politique du partenariat. Et vous savez qu'elle a créé avec la Russie et l'Inde l'organisation commerciale de Shanghai, qui apporte un certain nombre d'appuis économiques, financiers à tous ceux qui y adhèrent. Or, quand vous voyez qu'au Moyen-Orient, elle a fait une OPA absolument incroyable qui fait que l'Iran, l'Arabie Saoudite et d'autres sans doute des pays des Émiratis vont tous adhérer à l'organisation commerciale de Shanghai. Ça y est, c'est fait. Et cette extension qui déjà a de l'influence sur la plupart des pays d'Asie devient considérable et prend des parts de marché très importantes aux Occidentaux.
Oui, pour poursuivre dans la voie que vient d'ouvrir Charles, il me semble qu'on a eu un changement de paradigme parce que pendant les années d'après-guerre, pendant 50 ans après la Deuxième Guerre mondiale, on a vécu dans un monde où il y avait deux blocs. C'était du bloc à bloc. Le bloc dirigé par les Soviétiques, l'Union soviétique et tous ses satellites, avec des traités militaires, le pacte de Varsovie, etc. Et en face, on avait un bloc qui était symbolisé par l'Amérique et ce que l'Amérique avait suscité, c'est-à-dire l'OTAN, etc. Aujourd'hui, le monde se constitue. Il y a effectivement... la différence, c'est entre les Occidentaux qui ont un mode de vie. Les Occidentaux, ça veut dire très précisément l'Amérique du Nord, Amérique, Canada, ça veut dire l'Europe occidentale et maintenant presque toute l'Europe, et éventuellement quelques vassaux dans le reste du monde, l'Australie par exemple en est un, et il y en a quelques autres. Et en face, on a, et c'est ça que la Chine est en train d'essayer de fédérer à travers des alliances, elle a réalisé ce qui autrefois était le rêve de Nasser ou d'un certain nombre de grands leaders du tiers-monde, c'est-à-dire les non-alignés. La Chine rassemble autour d'elle des alliés, pour l'instant, des vassaux, comme la Russie, et le monde des non-alignés, dans lequel il y a la plupart des pays, une bonne partie des pays africains, une bonne partie des pays du sud de l'Amérique et d'autres. Et
donc, c'est pourquoi ils demandent quand même
sur le refus de notre mode de vie, sur le refus de notre décadence.
En attendant, c'est vrai que nous avons découvert, nous tous d'ailleurs, à l'occasion de cette guerre, que l'Occident était quand même... que sa voix était limitée et qu'autour de l'Occident, il y avait les BRICS, etc. Et au fond, c'est presque une découverte. On était dans le monde de l'OTAN.
Le Brésil de Lula va adhérer à l'organisation commerciale de Shanghai.
La
plupart des pays qui se rassemblent autour de Shanghai, notamment de l'OCS, sont presque tous des pays plutôt totalitaires, libertés publiques, les libertés d'expression n'existent pas. C'est une des caractéristiques de ce nouveau monde.
Alors, que fait la police? Je veux dire, il n'y a pas de gendarme du monde.
Qu'il faille un nouvel ordre international, c'est évident.
De toute façon, qui alimente toute la...
Mais est-ce qu'ils seront suffisamment puissants pour stopper cette hégémonie?
Mais sûrement pas.
J'ai entendu sur une chaîne d'information de télévision que les Ukrainiens cachaient un certain nombre d'opérations aux Américains. C'est à mourir de rire, à mourir de rire. Toutes les opérations sont centralisées à Ramstein, à la base américaine.
En Allemagne. Ouais.
En Allemagne. Ouais. Tout part de là, de toute façon, la conception et l'action et le matériel.
Tu admettras que l'Amérique, malgré sa puissance militaire indiscutable et son leadership technologique militaire, ne peut pas intervenir sur tous les chantiers du monde, sur tous les militaires.
Mais nous n'avons aucun intérêt
à ce qu'il y de la Chine. La Chine, pendant ce temps-là, travaille sur tout le reste du monde, tous les chantiers de guerre possibles et imaginables, et c'est pas dit que dans cette confrontation, nous soyons pour l'instant les mieux placés. Surtout pas en étant vassal de l'Amérique, comme on le fait quand on se présente avec le président Macron et son commissaire politique, Madame von der Leyen, pour aller rencontrer les Chinois.
Catherine n'a pas parlé.
Oui, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on essayait de se consoler en disant « Poutine est seul ». Et moi, je me dis, il n'est pas seul. Et il y a quand même une image qui m'a frappée, c'est qu'il ait reçu tous les chefs d'État africains et quand même envoyé cet aréopage de président auquel il a remis épongé leurs dettes. Vous n'avez plus de dettes. Donc, il se crée aussi des comme ça. Et puis, comme ces pays africains ont besoin de la Russie pour nourrir leur population, eh bien, même s'ils ne votent pas contre la Russie à l'ONU, ils s'abstiennent.
On voit bien comment il faut. Le temps qui vous est imparti,
chère grande voix, est terminé. C'est comme ça. C'est la musique maintenant. C'est The Fool, c'est Jane. C'est le premier single du nouvel album qui sort le 21 avril. Jane, avec son dernier titre The Fool, elle sera en tournée à partir du 20 octobre au Zénith d'Amiens et ensuite Montpellier, Lyon, Reims, Lille, Nantes, Poitiers, Toulouse, Bordeaux, Rennes et Paris aussi. Voilà, Laurent Mariotte arrive. Bonjour Laurent.
Bonjour Pierre et bonjour les grandes voix.
Bonjour Laurent.
Ça ne vous a pas échappé. Œufs, agneaux, fraises, voilà notre trilogie Pascal en cuisine. Et la journaliste Marie-Sophie Lacaro nous rejoint pour le dessert. Un beau gâteau de fraises. A tout de suite.
Tout de suite.